première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Je suis un peu comme le chauve-souris. Les mammifères disent que c'est un oiseau et les oiseaux disent que c'est un mammifère.
Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, trajectoire singulière. Charlemagne Palestine. Hugo Claus. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
Les jeunes plasticiens qui vont commencer à arriver fin des années 70 vont changer la situation. À ce moment-là, Bruxelles était une magnifique 24 sur 24 ville. Parce que maintenant, j'habite ici depuis 20 ans. C'est difficile à trouver un restaurant où vous pouvez manger après 11 heures. On a juste commencé à 11 heures dans les années 70. Ici, on peut aller à d'énormément des endroits. Tout le monde était très actif. La taverne de passage n'est pas comme il est maintenant, un peu comme une mausolée. Il était un endroit comme la coupole dans les années 30 à Paris.
Trajectoire singulière. Deux expositions, Charlemagne-Palestine, à Schmitt Rétrospective, jusqu'au 28 août, Hugo Claus, Con Amore, jusqu'au 22 juillet.
Très, très active, Laurie Anderson Avenue, Terry Riley, moi, Phil Glass, énormément différents performeurs, Dennis Oppenheim, Vido Acconci, on était régulièrement invité à Bruxelles et parfois aussi vers le casino à Knok et des choses comme ça.
Charlemagne-Palestine, à Schmitt Rétrospective jusqu'au 28 août avec Michel Botson, Alberta Sessa et Charlemagne-Palestine.
Les gens qui étaient des sponsors de l'art et tout ça, les gens comme Nyan Hutu, les gens qui a aimé le fun de l'art, pas seulement le business de l'art, a diminué énormément. Et l'argent qui était utilisé pour faire des festas était commencé à être utilisé pour spéculation. J'ai vu ça dans tous les pays parce que j'ai commencé. Dans cette période, quand j'ai venu ici, j'étais 26 ans.
Mais ça fait une heure qu'on tourne autour du pont, d'un mot auquel je pense et qui surgit maintenant et qui est un mot ancien des années 60.
Oui.
Psychédélique.
Oui. Oui. Psychédélique et psychédélique.
Alberta, c'est ça.
C'est très tentant de l'utiliser, mais je me demande si c'est celui-là. Le mot psychédélique me donne quelque chose d'incontrôlable comme sens. Ici, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui est finalement très maîtrisé. Voilà, on joue avec ce code-là, mais on est là, on est dans cette énergie.
J'ai connu des milliers d'artistes, et pas mal d'artistes très célèbres dans le temps. J'ai toujours rencontré un gentil restaurant, café ou bar, où on a fréquenté tout ensemble, et c'était là, the watering hole, où on a tous été toujours en train de fertiliser des idées, les situations, rencontrer une nouvelle possibilité, un sponsor, et ça n'existe presque pas. Plus. Nulle part, pas seulement en Belgique, à Paris, difficile à trouver une coupole moderne, à New York, in Maxis, Kansas City, moderne, où c'est toute une autre atmosphère maintenant. Et il y a énormément beaucoup plus des artistes, n'importe quel âge, pays, position artistique et tout. Il a devenu totalement autre chose.
Je m'introspective. Tournant dérision le terme rétrospective. Bon, le terme rétrospective, c'est une manière de jouer avec le côté fini d'une rétrospective qui est figée, qui est classée. Schmetro, c'était une manière de dire, ben non, c'est pas fini, on continue.
Mot yiddish.
Ouais, c'est un mot yiddish.
Vous dites plush, plush.
J'aime maintenant le terme divinité quand je parle, parce qu'on est dans une salle ici où il y a Ganesh, par exemple. Parce que beaucoup de gens pensent que mes œuvres viennent que d'idées de le nounours. Et c'est vrai que le teddy bear était inventé dans le même quartier où j'étais né à Brooklyn. C'est un couple qui s'appelle Rose et Morris Mitchum. Et eux ont créé le teddy bear en 1902 pour le président à ce moment, Teddy Roosevelt. Et moi, j'ai regardé sur Google Maps récemment que leur petit magasin où eux ont créé cette petite ours, le prototype qui était dans une vitrine, il était exactement 5 kilomètres où moi, j'étais né à Brooklyn comme un petit enfant dans un quartier émigré, juif, polonais, roumain, ukrainien, où on était tous des réfugiés de l'Empire russe dans le temps.
Le Charlemagne Palestine.
Mais ici, il y a Ganesh, qui est la divinité hindoue qui a une tête d'un éléphant et le corps d'un homme un peu dodu, si on peut dire. Et lui date quelques milliers d'années plus tôt. Et il est aussi une espèce de nounours divinité. Il protège la maison. Il est adoré par les enfants. Il est un gardien. Il est une grande partie aussi de ma expo ici parce que le sens qu'il n'est pas seulement un jouet, mais une divinité, ça, le mélange les deux, pour moi, fait une chimie ou une formule fondamentale. Et ça, c'est à la base de tout mon travail, sonore, performance, de tout. C'est à jouer avec le corps, avec les icônes de notre temps, mais toujours le sacré. Et mélanger tout ça de ma façon.
Vous dites, Charlemagne-Palestine, plusieurs fois, performance.
Oui, performance, parce que parfois les gens veulent dire que musique, que j'adore, ça c'est un domaine assez rigide, souvent. Parfois, je fais des performances sonores, et ça ouvrir toutes les possibilités, le langage, l'approche, et me donner beaucoup plus des options. Un peu comme maintenant, j'ai inventé cette mot un peu yiddishifié. Je dis pas rétrospective, qui est très rigide. Je dis schmetrospective. Mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Performance, comme un mot aussi, est beaucoup plus ouvert avec la possibilité. On performe, on bouge, on parle, c'est une forme ouverte.
On les appelle, nous, entre nous, les refugees boat. Donc, ça évoque beaucoup de choses aussi. Love refugees. Puis il y a ces dessins, des dessins qui reprennent les années 60, qui reprennent les structures du son.
Même des gens me demandaient, « Ah, vous allez faire un concert ce soir ?»« Non, je vais faire une performance ce soir. » Hier, c'était une chapelle dominicaine à Montpellier où j'ai joué sur un magnifique orgue. Ces derniers 40 ans, 45 ans que je fais mon travail. J'ai cherché les choses, une quête. jour après jour, chercher une formule que vous n'allez jamais trouver.
Michel Botson, vous avez vu l'exposition de Charlemagne-Palestine ?
Oui, bien sûr. Je connais très bien Charlemagne depuis 1974. Je considère comme un ami. Nous avons une très bonne relation. Et ça m'a fait un plaisir énorme lorsqu'il a été proposé que j'écrive un texte pour le catalogue. Ça m'a fait un très grand plaisir parce que c'était retombé dans cette passion, cette qualité de sa passion pour la performance, l'intelligence de ce qu'il a réalisé à ce moment-là. Ce concert qui était absolument extraordinaire, qui était un très très grand moment du Palais des Beaux-Arts. Le fait qu'il y avait dans l'exposition que j'avais réalisée Artistes Vidéothèques 2 mois après le concert, ou 3 mois après le concert au Palais des Beaux-Arts, il y avait des vidéos de Charlemagne Palestine, Body Music One, qui ont eu un très très beau succès. C'était des vidéos à la demande et c'était un des vidéos les plus demandées, avec un vidéo qui n'avait rien à voir, de Darcy Lange, qui était en Écosse, un suivi de 20 minutes, puisque les bandes magnétiques ne duraient pas plus de 20 minutes sur Sony portable, suivi d'un berger dans les brumes de ces collines écossaises, rassemblant ses moutons avec son chien. Et si je dis ça, c'est par rapport à Charlemagne, c'est que nous avons vu dernièrement, il a montré un de ses films où il a été analysé, par exemple un film qui s'appelle Transhumance, et où il a suivi une transhumance de bergers, de leurs moutons en France. C'est donc à la fois artiste de la performance, artiste de la musique, son concert à Saint-Michel fut fabuleux, et en même temps c'est artiste de la sensibilité de ce qui est les qualités humaines.
Souvent, j'ai la claustrophobie par des mots qui ne me donnent pas toutes les opportunités.
Nous voulions quelque chose qui détourne à sa façon, comme lui peut le faire. Et on a choisi une grande image de son grand Godbert de 6 mètres de haut qu'il avait présenté à la Documenta de 87 à Cassel. On le verra portant ce manteau que Klaas Oldenburg lui avait offert, en train d'effectuer un rituel devant ce Goldberg. Donc on voulait que cette festivité apparaisse et qu'il y ait ce clin d'œil avec la Documenta. Donc que toutes ces choses s'imbriquent l'une dans l'autre, et alors avec ce titre joyeux là qui vient un peu bousculer tout ça.
Vous allez faire un concert ce soir? Je dis, non, probablement il va être une performance qui ne change pas, que je vais utiliser le même matériau, mais des mêmes instruments, mais ça c'est... C'est un cadre, ou un cadre beaucoup plus ouvert que le mot concert, ou musique versus performance, ou même danse. Le mot danse, ou le mot théâtre, ou sont des domaines. J'ai une allergie à ces domaines.
Alberta, c'est ça.
Il se fait que Charlemagne, peut-être il vous l'a déjà dit, est venu en 1974, déjà au Palais des Beaux-Arts dans le Haut-Lorta, à l'invitation de Hergé et du directeur de l'époque, Harold Gerland, qu'il avait fait une performance, où déjà à l'époque il avait souhaité investir un espace qui ne soit pas un espace, on va dire, classique, traditionnel, institutionnel, comme une salle de concert pouvait l'être encore plus sans doute dans ces années-là.
Souvent, je prépare pour les performances avec un alcool, par exemple, normalement. J'étais de l'époque, fin des années 60, j'ai même rencontré Timothy Leary, Dr. Richard Alpert, qui est devenu Baba Ram Dass, les gens qui ont fait les expériments avec LSD, marijuana, peyote, et beaucoup de différentes drogues qui viennent même de les indigènes, pour entrer dans une dimension hors de réalité normale. Et moi aussi, j'ai trouvé ça indispensable dans mon travail, mais ma préférée élixir, si on peut utiliser ce terme, c'est des alcools qui étaient dans le temps, historiquement, les premiers 30 ans de mon travail, c'était cognac. Et même le ballon même a devenu un instrument à jouer. Après, l'odeur, la couleur et le goût de cet élixir a me inspiré, changé ma sensibilité, et j'ai devenu plus dans une autre niveau d'énergie.
Le voici à Bruxelles depuis 20 ans. Donc, Espace naturel pour nous, c'était les antichambres. Et comment va-t-on mettre un artiste aussi plein que Charlemagne dans des volumes comme ceux-là ? Donc fatalement, il y a à un moment donné un choc, un clash, à la fois visuel, sonore, chromatique. Et un choc sacré, parce que c'est un choc divin. Les étincelles qui viennent un peu embêter ce côté très très austère. Donc en fait, on a commencé par travailler sur la rotonde, avec ce dôme doré, que ces deux pianos ont trouvé là leur place naturelle, puisque sa technique du strumming, qui est cette répétition du son qui va jusque l'infini, ben, finalement ça se mettait très très bien. En fait, l'exposition s'est naturellement mise en place dans ces volumes-là. On a choisi quelques grandes pièces qui devaient faire écho symboliquement à son travail. C'est pas du chaos, c'est du bordel, mais c'est du bordel joyeux. Une installation qui a été à la fois très intuitive et qui s'est faite in the making, qui s'est faite vraiment pendant le montage. Donc les grandes pièces, les grands choix avaient été faits. Il fallait un minimum, bien sûr. Et puis le reste est venu comme ça au montage. Et la sélection se fera d'heure en heure jusqu'au dernier moment.
J'étais plus sensible à les choses extérieures de moi. J'ai senti beaucoup plus autour de moi. Et j'ai entré une espèce de transe de ma façon. Il y a des trans, et trans c'est un mot, et des cultures, beaucoup de différentes cultures utilisent trans dans une différente façon. Mais moi, j'ai toujours préparé pour mes cérémonies ou performances, toujours avec une sorte d'élixir d'un certain cognac pour longtemps. Maintenant, plus c'est whisky, parce que cognac est vraiment donné à vitesse, speed, énergie. Et quand j'étais jeune, c'est ça ce que j'ai voulu. Maintenant, le whisky me calme, j'entre une sorte d'état de plus méditative et réflective, et après je performe.
Donc, dans l'exposition sont présentes des pièces à lui, toutes sont de lui, toutes sont par lui, des objets personnels, des archives, quelques vidéos les plus emblématiques. Et alors, surtout, aussi, on a eu accès à ces magnifiques livres qui sont les Books of Continuity, qui sont des livres où il a dessiné un peu les couleurs et le son, où il a travaillé cette chromatique tout le long des années 70. Qu'on a scanné, qu'on présente un peu en accéléré pour voir en fait comment tout ça se mettait aussi en place chez lui. Tout ça tournant autour de ces deux pianos dans la rotonde. Donc ça va être un espèce de continuum d'univers sacré, permanent, où tout se mêle. Et je pense que c'est ça qui donne, ces étincelles, mais très joyeuses en fait.
Charlemagne Palestine, vous avez parlé de Ganesh, de l'Inde. Et dans cette optique, je pense que vous aimez la couleur.
Tout le monde qui va maintenant voir cette expo va être étonné. Les arcs-en-ciel, le Oregon de couleurs, les tornades, tempêtes, plein de couleurs partout. Quand j'ai commencé, il y a quelques dessins et autres trucs qui datent dans les années 70, début des années 80, j'étais moins coloré. Mais avec l'âge, j'ai devenu plus en plus coloré. Oui. Mon travail et même ma façon à voir le monde, même ma bataille depuis le début des années 70, quand les gens ont essayé à utiliser ces horribles termes minimalisme pour mon travail, j'ai battu pour il devenu maximalisme.
Et donc, toutes ces couleurs dans le maximalisme que vous évoquez évoque à mes yeux et la fête et l'enfance.
En vieillesse, parce que je suis un vieil enfant, alors. Mais voilà, il peut être comme on veut. Colorer donne un homme toutes les possibilités. Et c'est ça ce que j'aime.
Un vieil enfant, ça nous rapproche de Cobra, peut-être ?
Oui, pourquoi pas, oui. C'était des collègues, oui, oui, oui.
Trop indépendant pour faire partie d'un groupe. Comme disait Bury dans une de ses citations, qui est intéressant avec les groupes, c'est de pouvoir les quitter. Je pense qu'il s'est rapproché des groupes, Je pense qu'il a touché, il a approché des artistes faisant partie d'un mouvement, mais il ne s'est pas inscrit dans aucun de ces mouvements. Donc je ne sais pas si Cobra lui aurait convenu.
Et aussi qu'eux étaient de des différentes villes en Europe, eux étaient bu ensemble, discuté ensemble. C'était aussi comme dans l'ancien temps, quand j'ai dit qu'on a rencontré une à l'autre, souvent comme Fluxus et des autres tendances que j'ai connues, les artistes pop art et tout. On était tous fréquentés des bars, bistrots, cafés, restaurants, que les artistes a préféré. Souvent, on a fait des trucs même avec le propriétaire à donner une œuvre, soit on peut manger là, boire là pour des mois et des mois, et choses comme ça. Mais des groupes comme Cobra, comme Fluxus, comme beaucoup de nous, c'était le période quand on a fréquenté des places sociales pour manger et boire.
J'évoque le vieillard enfant avec lui et la question de l'enfance.
Oui. Oui, ben oui. Et t'as d'où découlent beaucoup de choses. Et sans doute que toutes ces pièces, tous ces nounours, qui sont ces divinités, ce ne sont plus des nounours jouets, ce sont des divinités, on ne joue plus avec. Elles sont là, elles sont installées, ce sont des pièces, elles sont cousues, elles sont dans l'espace, elles sont présentes, et elles ont été chargées de choses. C'est personnel, mais ce sont plus des transmetteurs que des choses avec lesquelles on a envie de jouer. Elles ont fait partie d'une enfance.
Mais elles sont devenues divinités.
Elles sont devenues des divinités, des alter ego, des transmetteurs, et tout ça ensemble, puisque cette pièce n'a jamais été dissociée de sa musique, sans doute lui permettent d'atteindre son univers incantatoire, qui est quelque chose que nous ne saisissons pas, mais auquel nous arrivons par moments.
Et quand vous dites univers incantatoire,
toutes ces notes, toutes ensemble, forment une espèce d'incantation. Et cette incantation nous permet d'accéder à cette, soit de façon sonore, de façon visuelle, de façon sensorielle, à quelque chose qui est sacré, qui est au-dessus de nous, mais que nous touchons par moments. Tout le mystère de la vie, c'est prégnant dans tout son travail.
Ici, c'est dans la capitale d'Europe. J'ai toujours pensé, même à New York quand j'étais jeune, comme du côté de ma famille, même des réfugiés d'Europe Est étaient des Européens, des Juifs Européens. Et notre temps, mon temps, aux États-Unis, c'était un bon moment. Mais à retourner en Europe, pour moi, c'est très important. J'ai habité dans la capitale de culture quand j'étais jeune, à New York. Et maintenant, j'habite dans la capitale d'Europe, qui est Bruxelles.
Chamanisme ?
Comme il le dit. Oui. Mais... Oui ?
Avec du whisky.
Avec le whisky time, qui est en prélude à ses performances, qui est un rituel. Avec ses tissus, avec... Voilà.
Michel Botson.
C'est l'exposition pour ceux qui ne l'ont pas vue. L'interrogation sur les godbears, les fétiches et le religieux qui devient une interrogation sur, en définitive, les qualités de l'enfance et ces qualités qui ne deviennent pas perverses dans toute la durée de la vie est assez extraordinaire.
Ces magic balls, comme ils les appellent, vous les voulez ? Dis-moi. Ils sont un peu travers, je trouve.
Oui, ça, on sait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on fait travers, sinon on bloque leur accès à ces champs, à ces plages. I mean, it's just a little workroom. If it can rest non... if they can remit toutes les choses qui sont dedans là ailleurs, mais you told me that they come there and they do, je sais pas.
Yeah, and then the thing is that the video school guy told me that you agreed with it, but I
j'ai pas besoin d'utiliser un énormément des ingrédients. je touche rien. C'est les sons qui jouent eux-mêmes. Comme des amibes qui font eux-mêmes le phénomène. Comme une énorme structure liquide.
Hugo Claus, Con Amore, jusqu'au 22 juillet, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec Mark Tiden, commissaire. Mark Tiden, j'ai rencontré une seule fois Hugo Claus, c'était en verse ou single,
oui.
Car il assistait à un spectacle de Yann Fabre, et je l'ai approché pour demander de parler de Yann Fabre, et il a refusé.
Oui, ça ne m'étonne pas. J'allais finir votre phrase, je ne peux pas penser à sa place, mais je crois qu'il y a deux raisons. Il n'aimait pas trop de faire des commentaires sur d'autres artistes, même s'il ne les aimait pas, je ne sais pas s'il aimait Fabre, mais il avait un respect pour chacun qui était créateur. Donc même si ça ne lui plaisait pas à lui, il restait diplomate. Au fond, peu de gens le savent, c'était un homme timide. Et dans un espace public, souvent il y allait parce que sa femme voulait y aller.
Alors Mark Tiden, votre rencontre avec, l'artiste, on va dire, puisqu'il est à la fois... écrivain, bien sûr, oui. Plasticien,
oui. Cinéaste, scénariste, poète, romancier, c'est vrai. C'est un homme avec... C'était, je parle au présent parce qu'il est très présent dans ma vie à ce moment. Je ne disais pas de lui qu'il était un homme complet ou homo universaliste, mais il était au fond. Ça vient un peu du fait qu'il était autodidacte. Il a traduit Shakespeare, mais il n'a jamais appris l'anglais. Il a adapté des drames grecs, mais il n'a pas jamais étudié... les langues classiques, quoi. Ça faisait tout par une force intérieure. Alors, la rencontre de Hugo et moi, d'abord, elle était très, très, très timide et même inexistante. J'aimais déjà son œuvre quand j'étais étudiant. J'avais un job de libraire, assistant libraire, rue des Éperonniers, pas loin d'ici, puisqu'on était aux Beaux-Arts. Et un jour, à ma grande joie, Hugo colle son front contre la vitre du magasin. Et... j'avais des doubles sentiments. En même temps, j'espérais qu'il entrerait, mais je savais que je ne saurais pas quoi lui dire. Alors, heureusement, il a continué son chemin, sans doute vers les galeries qui étaient place de la vieille Halle au Blé, parce que je l'ai encore sui de dos pendant qu'il allait dans le haut de la ville. Et cette image m'est restée toute ma vie, parce que bien qu'il était assez colossal, il avait une élégance, comme ont certains éléphants. Alors, au début de cette expo, que j'ai eu l'honneur de présenter aux Beaux-Arts, j'ai choisi une image de vacances d'un ami de Claus qui l'a filmé pendant un jeu de pétanque en Provence, en attendant l'apéro. Et on voit dans ce tout petit film, qui est un home movie, comme on dit en anglais, on voit que même dans un petit jeu de pétanque, après qu'il a joué un très bon coup, il marche vers le cochonnet, il voit que c'est bien joué, il retourne avec une aisance, mais aussi une espèce de gloire, comme ça. Juste content d'avoir gagné ce petit jeu entre amis. À ce moment-là, moi, j'étais très maigre, j'étais un petit étudiant pauvre, j'étais jaloux de sa vie. Je savais qu'il avait vécu à Rome, je savais qu'il avait vécu à Paris, je savais qu'il avait eu des actrices comme petites amies, je savais qu'il était partout, qu'il allait dans les grands théâtres, qu'il fréquentait. Il était ami de Jean-Louis Trintignant, par exemple, qu'il avait rencontré à Paris. Il était ami de Bernard Buffet. Il travaillait ici pour le théâtre flamand, francophone. Il était au-dessus de tous les petits combats. Il avait beaucoup de succès en Hollande, ce qui pour un écrivain flamand était un peu le succès à Paris pour un écrivain francophone belge. Pour un écrivain flamand belge, évidemment, la Hollande, parc, c'est un marché triple, d'une triple envergure. C'est un peu le pays de la littérature. Les Flamands lisent beaucoup les grands maîtres hollandais, Mulisch, Hermans et tout ça. Donc, pas longtemps après, à notre école de théâtre, le prof demandait, en quatrième année, vous allez tous faire un stage. Et on n'était que six, donc c'était vite réglé. Un dit, moi, je vais faire un stage au KVS, Théâtre Flamand à Bruxelles, qui est près de l'école, donc c'était facile. Un autre dit, moi, je veux aller au Théâtre National d'Anvers. L'autre dit, moi, je vais travailler à Gand. Un autre dit, moi, je veux dans ce petit théâtre à Bruges. C'était... Et moi, j'étais le dernier qui prenait la parole, et je dis, moi, je vais aller chez Hugo Claus, qui était en ce moment, pas directeur, mais... un des grands metteurs en scène du théâtre d'Amsterdam. Très joli théâtre. Et le prof me regarde d'un air pour qui tu te prends, mais en même temps il dit, tu peux lui écrire une lettre, j'ai une adresse de ce théâtre. Parce qu'à ce moment-là, on ne pensait pas à téléphoner, il n'y avait rien d'autre comme communication. Je lui ai écrit une belle lettre en espérant de recevoir une réponse pré-imprimé, où il disait hélas, nous n'avons pas. Non, je vais. Il a une très jolie écriture. Hein. J'ai eu une lettre de lui pour me dire oui, pourquoi pas, venez, on va se parler. Et venez une fois à Amsterdam et on va voir si on peut faire quelque chose ensemble. Je suis arrivé, j'étais comme si je rencontrais, pas Dieu, mais pour parler de quelqu'un de notre temps, comme si je rencontrais Elvis Presley ou Bob Dylan, qui étaient aussi des idoles à moi au début des années 70. Je n'ai pas beaucoup de voix, mais je n'osais rien dire. J'attendais qu'il me parle. Il dit bien, qu'est-ce qui est le problème ? J'ai dit, ben, j'aimerais bien travailler sur un projet avec vous pour voir comment vous interprétez votre texte, comment vous parlez aux acteurs. Alors il m'a dit, c'est très bien, tu prends une chaise, tu t'assieds là, parce qu'on va répéter dans 10 minutes. Et je ne vais même pas te demander de chercher du café, parce qu'on a quelqu'un pour ça. Donc, pendant 6 semaines, j'étais à côté de quelqu'un que j'admirais, que j'avais lu, et qui en même temps était très gentil, ce qui m'étonnait, parce que pourquoi est-ce qu'il s'occuperait d'un petit quête de 20 ans, qui n'a rien à présenter, qui n'a pas de CV, mais il avait une grande patience, et il ne m'a jamais demandé mon avis ou quoi, ce serait de la fantaisie de dire ça. La plupart de ces 6 semaines, j'ai passé sur une chaise, mais j'ai beaucoup écouté. Après, j'ai aussi fait quelques films, donc je me suis... J'ai souvent rappelé comment il traitait les acteurs, qu'il sentait qu'avec cet acteur-là, il faut une autre technique avec celui-là. Il allait vers les acteurs, les actrices, il était très gentil. Et il avait tout son passé et sa culture dont vous parlez. Il y avait toute la littérature dans ses commentaires, mais aussi ses images, parce qu'il faisait des remarques qui pouvaient venir de la poésie, de la peinture, du cinéma. On voyait quelqu'un de très, très cultivé, mais qui ne se vantait pas et sortait cette connaissance à des moments bien précis quand ils avaient besoin pour illustrer quelque chose. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai rien dit et en plus j'ai bien mangé. Parce qu'en étudiant, on est pauvre. Mais lui, à ce moment, il était un auteur à succès. Et les acteurs qui étaient dans la pièce étaient des gens aussi comme Fons Rademakers, qui après encore fait des films et qui a même gagné un Oscar. C'était des gens... qui vivait bien. Et il m'emportait. Donc, soudain, j'étais. Moi qui ne mangeais que. Même pas des hamburgers. Je mangeais des sandwichs au fromage, des saucissons secs. Avec lui, parfois, il y avait des huîtres et il y avait toutes sortes de choses que je ne connaissais même pas. Mais ça m'a quand même plu de fait que c'était des gens qui gagnaient de l'argent, mais qui le faisaient rouler. Que ce n'était pas des avares. Et ce qui est encore mieux, beaucoup plus que cette nourriture, parce qu'à cet âge, on n'aime pas les huîtres. C'était qu'il parlait de tout le temps, de toutes choses. Il parlait de James Joyce, il parlait d'une nouvelle expo à Paris, il parlait de femmes, mais c'était aussi mon stage, d'entendre comment vivent ces gens et comment ils se parlent. Donc, longue réponse pour une petite question, comment j'ai rencontré Claus, c'est dans les deux premières fois, la première fois je n'ai pas parlé, la deuxième fois j'étais son sous-assistant. Mais à la fin de cette période, j'ai écrit un mémoire sur lui, et je lui ai envoyé. Et j'ai jamais su s'il avait lu. Mais, au moins 10 ans après, je peux même vous dire, je suis sorti de l'école en 72. En 85 ou 86, Donc, presque 15 ans après, il m'a appelé pour jouer un rôle dans son film de Sacrament, le Sacrement. Je dis, pourquoi moi? Il dit, oui, je t'ai vu à gauche et à droite, et il dit, tu as fait un film qui me plaît bien, il faut qu'on se parle. Et j'arrive là, chez lui, à Gand, en belle maison, tout à fait caché, encore cette timidité. Devant la maison, il y avait un mur avec une petite porte. On ne pourrait pas savoir qu'il y a quelqu'un qui habitait derrière. Donc il fallait ouvrir cette porte, on était dans un petit jardin, et puis il y avait sa maison. En centre Gand, on était comme si on était à la campagne. Et il me dit, je suis pas acteur, mais si vous pensez que je peux le faire, pour vous, je vais faire un effort. Je dis, mais vous savez qui je suis, j'ai une fois travaillé avec vous et j'ai écrit la mémoire sur lui, sur vous. Il dit, oui, je sais, tu étais très timide. Hein, oui. Et la mémoire, il est là, il dit. J'étais très fier. Il m'a offert une bière. Après, il a dit, j'ai dit, je dois faire une audition. Il dit, non, il dit, moi, je fais pas ça, tu as le rôle.
Hugo Claus, Con Amore, jusqu'au 22 juillet, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, avec Mark Tiden, commissaire.
Il m'a aussi beaucoup épris sur le cinéma, parce que sa carrière cinématographique, selon certains critiques, n'est pas fabuleuse et il n'est pas surtout connu comme cinéaste, mais il a fait 7-8 films. C'est plus que beaucoup de cinéastes belges qui s'appellent vraiment cinéastes. Il les a fait comme ça entre d'autres projets. L'expo ne s'appelle pas pour rien Con Amore. Quand les gens du Beaux-Arts m'ont pensé à moi, certainement parce qu'il y a 5 ans, j'ai écrit un petit livre, après la mort de Claude, j'ai écrit un livre qui s'appelle simplement Hommage, qui est hélas seulement édité en néerlandais. J'ai expliqué ce que je vous explique, pourquoi j'aime cet homme et son œuvre. C'est indissociable. Et secondo, comment meubler cette expo? On m'avait déjà donné un plan des salles. C'était les salles BN qui ont été créées par Horta pour faire des expositions de photographie. BN veut dire blanc-noir. En plus, par des recherches, j'avais découvert que la première fois que Claus a montré ses peintures, c'était dans ces salles, en 1951. Même mur où maintenant il y a les chevaux qu'on a fait, il y avait déjà son nom. Donc je trouvais ce cercle très bien. Et il avait aussi une relation excellente avec le Beaux-Arts au fil des années. Dans tous les... Donc, période de Beaux-Arts, il était là, avec une pièce, avec un texte, avec un 68, avec la protestation. Il s'est joint à ce qui s'est mané à Bruxelles depuis mai 68 à Paris. Il s'est joint là. Il était encore un jeune homme, mais il était quand même déjà posé. Et donc, en allant sur cette idée de l'amour, je me suis dit, mais alors, la meilleure chose que je puisse faire, c'est quelque chose pour lui, un cadeau. Pas sur lui, mais pour lui. L'avant-dernière chose qu'on voit dans l'expo, c'est une armoire que j'ai fait faire par un scénographe pour dire, n'oubliez pas qu'il a écrit. Il a fait toutes choses, il a peint, il a aimé des femmes, il a fait des grands voyages, il a fréquenté des grands peintres, mais tous les jours, il écrivait, depuis ses 20 ans jusqu'à le jour qu'il est mort. Quelques semaines après, c'est une des raisons de sa mort, c'est qu'il ressentait qu'il mettait une phrase et les mots n'étaient pas dans l'ordre juste. Dans le juste ordre, il a dit non, je ne suis plus un écrivain. Si je fais ça, ma vie ne vaut plus d'être vécue. Il n'a pas articulé, mais je connais sa femme, je connais ses amis. C'est au fond le raisonnement qu'il a dit. Qu'est-ce que je fais sur Terre, moi, si je ne suis pas écrivain? Et donc là, en Ostende, au même endroit, pas dans le même hôtel, hélas, mais un hôtel à la même place, où on voit la mer qui n'est pas bleue, qui est brune, il faut l'avouer. Et on voit la mer, et j'ai pensé, ici ce type, un jour, vers 20 ans, il s'est dit, je vais devenir écrivain. Et ça m'a inspiré, et j'ai fait un long mail de tout ce que je raconte maintenant vers les gens du Beaux-Arts. J'ai dit, ce sera ça. Ce ne sera pas sur lui, mais pour lui. Je ne suis pas un historien de l'art, je ne suis pas un connaisseur, je suis un amoureux. J'aime bien Claus, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il écrit. Et ils ont dit d'accord, parce que ce n'est pas la grande exposition définitive sur Hugo Claus, mais Ça, c'est important pour vos auditeurs. Je me suis aussi directement dit que Hugo Claus n'était pas seulement un écrivain flamand. Dès le début, ses tout premiers romans étaient déjà aussi édités à Paris. Pour l'expo, le fait que c'est un écrivain international, mais aussi le fait que l'exposition se tienne à Bruxelles. Si je faisais cette exposition à Gand et à Anvers, ce sera une autre exposition. Je voulais tenir compte ici de l'internationalisme de Claus, quelque chose d'évident chez lui, il n'a jamais réfléchi, il n'a pas dit « je vais aller à Paris », il avait envie d'aller à Paris, il est allé, il a toujours fait ce qu'il voulait. J'ai introduit des textes de Jean-Luc Outers, j'ai introduit des lettres qu'il a écrites à des amis francophones, j'ai bien montré aussi dans le catalogue, j'ai demandé à Caroline Lamarche, etc., d'écrire un texte pour dire qu'on allait ouvrir ça, c'était pas la petite fête d'un écrivain flamand, non, c'était quelqu'un, un personnage. Je sens chez mes amis francophones que Claus est souvent associé au chagrin des Belges, ce qui est un très bon livre, hein, mais il y a tellement plus.
Marc Viden, je vais vous interroger sur le Claus plasticien,
oui.
C'est-à-dire le rapport à Cobra.
Oui.
Et pour situer Cobra, ce qui est plutôt une attitude,
oui. Hein,
donc c'est le langage de l'enfance,
oui.
De la folie, de
oui.
L'immédiateté,
oui.
De l'improvisation.
Oui. Dès qu'il connaissait quelque chose, il parodiait également. Il a fait des parodies de Cobra. Dans l'expo, il y a une peinture de Ravel, un homme qu'il admirait, mais il a fait un Ravel pour dire, je ne sais pas si difficile que ça. C'était un jeu. Avec Cobra, c'est la même chose. Au début, il était très, très ému par l'idée C-O-B-R-A, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, l'idée que des jeunes loups se mettent ensemble pour changer l'histoire de la peinture.
Oui, car nous sommes après-guerre. Hein.
Oui, voilà. Ici, dans les cafés tout près, hein, la fleur d'or en papier, tout ça était là. Hein. Ils faisaient des grands voyages, mais c'était surtout vers Amsterdam ou vers Paris, mais aussi des gens de... Ils allaient tous en Italie, ils étaient amoureux d'Italie. Ce n'était pas une évidence à cette époque-là, c'était un long voyage, mais la vie était bon marché et les Italiens aimaient bien les artistes. Donc s'il y a deux, trois peintres dans un village, les gens leur donnaient du vin, des pizzas. Ça, c'est une réalité. Et dans Cobra, Claus a aussi spécifié qu'il n'y a pas la France, qu'il n'y a pas Paris. Ce n'est pas Cobra pas. Mais beaucoup de l'histoire de Cobra s'est passée à Paris. Parce que aussi bien les Danois, les Hollandais que les Belges adoraient Paris, qui était le centre intellectuel du monde à cette époque. Et très vite, il y a quand même eu des scissions, parce que c'était aussi des grandes personnalités individualistes. Donc, ce que faisait Apple n'était pas ce que fait Alechinski. Ce que fait Jorn, j'aime beaucoup le Jorn qu'il y a dans l'expo ici. Claus s'en est très vite distancié, parce que, en tant que loup solitaire, il n'aimait pas d'être associé à un mouvement. Et il sentait aussi que certains de ses collègues de Cobra se répétaient. Il disait, ils ont trouvé un signe, et au lieu d'inventer d'autres signes, ils reproduisent ce signe. Ce qui est lourd comme accusation, mais il voulait dire, moi je suis un joueur, je veux déjà faire autre chose. Du moment que je suis associé à Cobra, je n'aime plus d'être dans Cobra. Même le jour de sa mort, il a fumé une cigarette, il a bu du champagne, il a chanté une chanson de Mouloudji. Et il a encore dit en flamand, tetitatut, ce qui sonne comme du japonais, mais ça veut dire en flamand de la Flandre occidentale, il y a tant que ce soit fini. Mais c'est une allitération, les paysans disent tetitatut, et c'est les derniers mots qu'il a dit. Donc il y avait de l'humour jusque...
Marc Viden,
oui.
J'aimerais bien qu'on ouvre le côté de l'homme révolté.
Oui, là, il fait une phrase importante qui est de plicht van de dichter. Is tegen de status. Un poète est obligé de mettre un coup de pied aux institutions. En tant que jeune, il a toujours participé à ce qui se passe contre la censure, contre le droit de mener sa vie comme on veut, aider les pauvres, prendre position contre les riches, les grands. Il a toujours été là où il fallait. Il n'était pas à toutes les manifestations, ou même pas le premier jour, mais si le quatrième jour, on disait « Klaus Fröth, que tu dises quelque chose », il venait. Il entrait, il disait un discours, il partait, parce qu'il ne voulait pas être là en train de chanter l'international, non, mais il voulait bien soutenir les bonnes causes. Après, il s'est un peu autocritiqué en disant, pendant mai 68, j'étais chez Lip, boulevard Saint-Germain, et en buvant un très bon Bourgogne sec, j'ai quand même regardé ces étudiants se battre avec les gendarmes, mais je ne suis pas sorti. J'ai pas pris de briques. Il dit, j'ai savouré mes huîtres. Et donc il dit, c'est difficile d'être un révolutionnaire quand on a réussi dans la vie. J'ai dispersé les œuvres de Claude. Je n'ai pas mis un mur avec toutes les œuvres de Claude. J'en ai mis gauche, ça et là, à gauche, à droite, pour que quelqu'un qui découvre des photos, des textes, des objets, voit aussi de temps en temps. Il n'était pas le meilleur des peintres, il le savait, hein, parce que c'est une des raisons qu'il a quitté Paris. Ça, c'est quand même important de dire dans le montage, vous voulez remettre sur le place sur Cobra. Il a dit, je ne suis pas bon assez. Il dit, eux, c'est des vrais peintres. Ils se lèvent le matin, ils ont déjà la peinture sur leurs doigts, sur leurs pantalons. Moi, je vais prendre un café en costume et puis je fais semblant d'être peintre. Il dit, moi, au fond, dans ce café, je suis en train de faire des notes, je suis un écrivain. Et eux ne savent pas écrire, mais moi, je ne sais pas tellement bien peindre. C'est une des raisons qu'il est retourné de Paris à Amsterdam. Il n'est pas passé encore vers la quelques mois à Gand, mais comme son éditeur était à Amsterdam, il aimait bien sa présence. Il avait aussi des amis dans la littérature irlandaise, amsterdamoise surtout. Il s'est donné une cotation à lui-même. Il a dit, en tant que peintre, j'ai 6,5 sur 10. Romancier 7, poète 9. C'est mieux que je sois poète, c'est ça.
Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, trajectoire singulière. Charlemagne Palestine, Hugo Claus.
Voilà.
Le jazz ? Un mot sur le jazz ?
Oui.
Ça, c'est Cobra aussi, le jazz.
C'est Cobra, mais c'est aussi l'après-guerre, c'est une relation assez compliquée avec les Américains, parce qu'ils n'aimaient pas les Allemands, naturellement, les gens progressifs, et les Anglais et les Américains sont démarqués, chewing gum, Coca-Cola et aussi jazz. Donc c'était très à la mode dans les intellectuels, surtout Amsterdam, des gens que vous ne connaissez pas, sans doute pas dans le monde francophone, des gens comme Remco Campert, et c'était des gens qui adoraient le jazz, parce que c'est aussi la musique pour se... comme le rock était 10 ans après, pour se démarquer de ses parents qui écoutaient Doris Day et qui écoutaient Edith Piaf. Soudain, ces jeunes, ils ont dit, c'est à nous cette musique. Et elle était rare aussi. Ce qui est rare est toujours un grand attrait. Il n'y avait pas du jazz partout. Je me rappelle, j'ai des amis, maintenant, moi j'ai moi-même 69 ans, j'ai des amis qui ont 75 ans, qui disaient, il fallait chercher bien pour trouver un disque de Louis Armstrong ou de Miles Davis. Il y avait une ou deux petites disquaires spécialisées qui avaient un petit bac sur le jazz. Il fallait aller dans le port d'Anvers ou des marins américains pour se faire un petit pourboire, vendre des disques. Il fallait aller à Londres. Donc c'était quelque chose pour eux de très précieux, mais aussi de très libre, parce que tout était assez formaté avant. Et Claus est resté amateur de jazz jusqu'à sa mort. Deux ans vers sa mort, je lui ai donné une belle collection de Ella Fitzgerald. Il a, paraît-il, joué tout le temps, donc ça me fait beaucoup plaisir. Mais ce qui est important, c'est que dans l'expo aussi, sans mettre trop de poids là-dessus, j'ai quand même fait passer Thelonious Monk et Hugo et Miles Davis pour leur dire, voilà, Hugo, tu es là, mais les autres sont là aussi. Et j'ai entendu des reflets de beaucoup de gens qui disaient que c'était agréable. D'entrer dans l'expo et déjà d'écouter Monk, ça leur mettait dans un bain des années 50. Mais pour eux, c'était comme le rock ou le rap maintenant. Hein. C'était aussi, même s'ils n'aimaient pas, ils disaient qu'ils aimaient parce que c'était parce que leurs parents disaient « enlève ce disque, ils jouent comme des fous ». Mais il a toujours aimé, il a aussi, il s'est déplacé pour, ils allaient voir les grands du jazz, entre autres ici, hein, vous savez, aux Beaux-Arts, tout le monde est passé, et il était présent. Et il a fait un programme de jazz pour la radio Grantoise, dont il y a même des textes qui sont restés. Et ça, après, il me l'a dit, je le faisais pour avoir des disques gratuits. Parce que pour faire ce programme, il recevait 150 francs, quoi. Mais il pouvait récupérer les disques. C'était marrant aussi.
Trajectoire singulière, deux expositions. Charlemagne-Palestine, à Schmitt rétrospective, jusqu'au 28 août. Hugo Claus, Con Amore, jusqu'au 22 juillet. Avec Marc Diden, commissaire. Trajectoire singulière par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.